Chapitre 6 La mort. Le vendredi et le samedi, l'infortunée prisonnière, dépouillée de l'habit d'homme, avait bien à craindre. La nature brutale, la haine furieuse, la vengeance, tout devait pousser les lâches à la dégrader avant qu'elle périt, à souiller ce qu'ils allaient brûler. Ils pouvaient d'ailleurs être tentés de couvrir leur infamie d'une raison d'État, selon les idées du temps. En lui ravissant sa virginité, on devait sans doute détruire cette puissance occulte dont les Anglais avaient si grand peur. Il reprendrait courage, peut-être, s'il savait qu'après tout, ce n'était vraiment qu'une femme. Au dire de son confesseur à qui elle le révéla, un Anglais, non un soldat, mais un gentleman, un lord, se serait patriotiquement dévoué à cette exécution. Il eût bravement entrepris de violer une fille enchaînée, et n'y parvenant pas, il l'aurait chargé de coups. Quand vint le dimanche matin, jour de la Trinité, et qu'elle dut se lever, comme elle l'a reporté à celui qui parle, elle dit aux Anglais et ses gardes, « Déférez-moi, que je puisse me lever. » L'un d'eux ôta les habits de femme qui étaient sur elle, vida le sac où était l'habit d'homme et lui dit « Lève-toi !»« Messieurs, dit-elle, vous savez qu'il m'est défendu sans faute, je ne le prendrai point. » Ce débat dura jusqu'à midi, et enfin, pour nécessité de corps, il fallut bien qu'elle sortît et prît cet habit. Au retour, ils ne voulurent point lui en donner d'autres, quelques supplications qu'elle fit. Ce n'était pas au fond l'intérêt des Anglais qu'elle reprit l'habit d'homme et qu'elle annula ainsi une rétractation si laborieusement obtenue. Mais en ce moment, leur rage ne connaissait plus de bornes. Saint-Raille venait de faire une tentative hardie sur Rouen. C'eût été à beaucoup d'enlever les juges sur leur tribunal, de mener à Poitiers, Winchester, Bedford. Celui-ci faillit encore être pris au retour entre Rouen et Paris. Il n'y avait plus de sûreté pour les Anglais, tant que vivrait cette fille maudite, qui sans doute continuait ses maléfices en prison. Il fallait qu'elle périt. Les assesseurs, avertis à l'instant de venir au château pour voir le changement d'habit, trouvèrent dans la cour une centaine d'Anglais qui leur barrèrent le passage. Pensant que ces docteurs, s'ils entraient, pouvaient gâter tout, ils levèrent sur eux les haches, les épées, et leur donnèrent la chasse, en les appelant « traîtres d'Armagnac ». Cochon, introduit à grand-peine, fit le guet pour plaire à Warwick et dit en riant « Elle est prise !» Le lundi, il revint avec l'inquisiteur et 8 assesseurs pour interroger la pucelle et lui demander pourquoi elle avait repris cet habit. Elle ne donna nulle excuse, mais acceptant bravement son danger, elle dit que cet habit convenait mieux tant qu'elle serait gardée par des hommes, que d'ailleurs on lui avait manqué de parole. Ses saintes lui avaient dit que c'était grand pitié d'avoir abjuré pour sauver sa vie. Elle ne refusait pas au reste de reprendre l'habit de femme. « Qu'on me donne une prison douce et sûre, disait-elle, je serai bonne et je ferai tout ce que voudra l'Église. » L'évêque, en sortant, rencontra Warwick et une foule d'Anglais. Et pour se montrer bon anglais, il dit en leur langue, « Farewell, farewell !» Ce joyeux adieu voulait dire à peu près « Bonsoir, bonsoir, tout est fini. » Le mardi, les juges formèrent à l'archevêché une assemblée telle quelle d'assesseurs dont les uns n'avaient signé qu'aux premières séances, les autres jamais, au reste gens de toute espèce, prêtres, légistes et jusqu'à 3 médecins. Ils leur rendirent compte de ce qui s'était passé et leur demandèrent avis. L'avis, tout autre qu'on en attendait, fut qu'il fallait mander encore la prisonnière et lui relire son acte d'abjuration. Il est douteux que cela fût au pouvoir des juges. Il n'y avait plus au fond ni juge ni jugement possible au milieu de cette rage de soldats parmi les épées. Il fallait du sang. Celui des juges, peut-être, n'était pas loin de couler. Ils dressèrent à la hâte une citation pour être signifiée le lendemain à 8 heures. Elle ne devait plus comparaître que pour être brûlée. Le matin, Cochon lui envoya un confesseur, frère Martin l'advenu, pour lui annoncer sa mort et l'induire à pénitence. Et quand il annonça à la pauvre femme la mort dont elle devait mourir ce jour-là, elle commença à s'écrier douloureusement, se détendre et arracher les cheveux. « Hélas, me traite-t-on ainsi horriblement et cruellement qu'il faille que mon corps, net en entier, qui ne fut jamais corrompu, soit aujourd'hui consumé et rendu en cendres. Ah, j'aimerais mieux être décapité 7 fois que d'être ainsi brûlé. Oh, j'en appelle à Dieu, le grand juge, des torts et ingravances qu'on me fait. » Après cette explosion de douleur, elle revint à elle et se confessa, puis elle demanda à communier. Le frère était embarrassé, mais l'évêque consulté répondit qu'on pouvait lui donner la communion et tout ce qu'elle demanderait. Ainsi, au moment même où il la jugeait hérétique, relapse et la retranchait de l'Église, il lui donnait tout ce que l'Église donne à ses fidèles. Peut-être un dernier sentiment humain s'éleva dans le cœur du mauvais juge. Il pensa que c'était bien assez de brûler cette pauvre créature sans la désespérer et la damner. Peut-être aussi le mauvais prêtre, par une légèreté d'esprit fort, accordait-il les sacrements comme chose sans conséquence, qui ne pouvait après tout que calmer et faire taire le patient. Au reste, on essaya d'abord de faire la chose à petit bruit. On apporta l'Eucharistie sans étole et sans lumière. Mais le moine s'en plaignit, et l'église de Rouen, dûment avertie, se put à témoigner ce qu'elle pensait du jugement de Cochon. Elle envoya le corps du Christ avec quantité de torches. Un nombreux clergé, qui chantait des litanies et disait le long des rues au peuple à genoux, « Priez pour elle !» Après la communion qu'elle reçut avec beaucoup de larmes, elle aperçut l'évêque et elle lui dit ce mot. « Évêque, je meurs par vous. » Et encore, « Si vous m'eussiez mis aux prisons d'église et donné des gardiens ecclésiastiques, ceci ne fût pas advenu. C'est pourquoi j'en appelle de vous devant Dieu. » Puis, voyant parmi les assistants Pierre Maurice, l'un de ceux qui l'avait prêché, elle lui dit « Ah, maître Pierre, où serai-je ce soir? N'avez-vous pas bonne espérance au Seigneur? Oh oui, Dieu aidant, je serai en paradis. » Il était 9 heures, elle fut revêtue d'habits de femme et mise sur un chariot. À son côté se tenait le confesseur, frère Jean-Martin l'advenu, et l'huissier Massieu était de l'autre. Le moine Augustin, frère Isambard, qui avait déjà montré tant de charité et de courage, ne voulut pas la quitter. On assure que le misérable Loiseleur vint aussi sur la charrette et lui demanda pardon. Les Anglais l'auraient tué sans le vicomte de Warwick. Jusque-là, la pucelle n'avait jamais désespéré, sauf peut-être sa tentation pendant la semaine sainte. Tout en disant, comme elle le dit parfois, « Ces Anglais me feront mourir. » Au fond, elle n'y croyait pas. Elle ne s'imaginait point que jamais elle pût être abandonnée. Elle avait foi dans son roi, dans le bon peuple de France. Elle avait dit expressément, « Y aura en prison ou au jugement quelque trouble, par quoi je serai délivré, délivré à grande victoire. Mais quand le roi et le peuple lui auraient manqué, elle avait un autre secours, tout autrement puissant et certain, celui de ses amis d'en haut, des bonnes et chères saintes. Lorsqu'elle assiégeait Saint-Pierre et que les siens l'abandonnèrent à l'assaut, les saintes envoyèrent une invisible armée à son aide. Comment délaisserait-elle leur obéissante fille? Elle lui avait tant de fois promis salut et délivrance. Quelles furent donc ses pensées lorsqu'elle vit que vraiment il fallait mourir? Lorsque, montée sur la charrette, elle s'en allait à travers une troupe tremblante sous la garde de 800 Anglais armés de lances et d'épées. Elle pleurait et se lamentait, n'accusant toutefois ni son roi ni ses saintes. Il ne lui échappait qu'un mot, « Ô Rouen, Rouen, dois-je donc mourir ici ?» Le terme du triste voyage était le vieux marché, le marché aux poissons. 3 échafauds avaient été dressés. Sur l'un était la chaire épiscopale et royale, le trône du cardinal d'Angleterre parmi les sièges de ses prélats. Sur l'autre devaient figurer les personnages du lugubre drame, le prédicateur, les juges et le bailli, enfin la condamnée. On voyait à part un grand échafaud de plâtre, chargé et surchargé de bois. On n'avait rien plein au bûcher. Il effrayait par sa hauteur. Ce n'était pas seulement pour rendre l'exécution plus solennelle. Il y avait une intention, c'était afin que le bûcher étant si haut échafaudé, le bourreau n'y atteignît que par en bas, pour allumer seulement, et qu'ainsi il ne pût abréger le supplice, ni expédier la patiente comme il faisait des autres, leur faisant grâce de la flamme. Ici, il ne s'agissait pas de frauder la justice, de donner au feu un corps mort. On voulait qu'elle fût bien réellement brûlée vive, que placée au sommet de cette montagne de bois et dominant le cercle des lances et des épées, elle pût être observée de toute la place. Lentement, longuement brûlée sous les yeux d'une foule curieuse, il y avait lieu de croire qu'à la fin elle laisserait surprendre quelque faiblesse, qu'il lui échapperait quelque chose qu'on pût donner pour un désaveu, tout au moins des mots confus qu'on pourrait interpréter, peut-être de basses prières, d'humiliants cris de grâce, comme d'une femme éperdue. Un chroniqueur, ami des Anglais, les charge ici cruellement. Il voulait, si l'on en croit, que la robe étant brûlée d'abord, la patiente resta nue. Pour ôter les doutes du peuple, que le feu étant éloigné, chacun vint la voir, et tous les secrets qui peuvent ou doivent être en une femme, et qu'après cette impudique et féroce exhibition, le bourrel remiste le grand feu que sa pauvre charogne. L'effroyable cérémonie commença par un sermon. Maître Nicolas Midi, une des lumières de l'Université de Paris, prêcha sur ce texte édifiant. Quand un membre de l'Église est malade, toute l'Église est malade. Cette pauvre Église ne pouvait guérir qu'en se coupant un membre. Il concluait par la formule « Jeanne, allez en paix, l'Église ne peut plus te défendre. » Alors le juge d'église, l'évêque de Beauvais, l'exhorta bénignement à s'occuper de son âme et à se rappeler tous ses méfaits pour s'exciter à la contrition. Les assesseurs avaient jugé qu'il était le droit de lui relire son abjuration. L'évêque n'en fit rien. Il craignait des démentis, des réclamations. Mais la pauvre fille ne songeait guère à chicaner ainsi sa vie. Elle avait bien d'autres pensées. Avant même qu'on l'eût exhortée à la contrition, elle s'était mise à genoux, invoquant Dieu, la Vierge, Saint Michel et Sainte Catherine, pardonnant à tous et demandant pardon, disant aux assistants « Priez pour moi ». Elle requérait surtout les prêtres de dire chacun une messe pour son âme. Et tout cela de façon si dévote, si humble et si touchante, que l'émotion gagnant, personne ne put plus se contenir. L'évêque de Beauvais se mit à pleurer. Celui de Bourgogne, Logne, sanglotait. Et voilà que les Anglais eux-mêmes pleuraient et larmoyaient aussi. Winchester comme les autres. Serait-ce dans ce moment d'attendrissement universel, de larmes de contagieuse faiblesse, que l'infortunée, amolie et devenue simple femme, aurait avoué qu'elle voyait bien qu'elle avait eu tort, qu'on l'avait trompée apparemment en lui promettant délivrance? Nous n'en pouvons trop croire là-dessus le témoignage intéressé des Anglais. Toutefois, il faudrait bien peu connaître la nature humaine pour douter qu'ainsi trompée dans son espoir, elle n'ait vacillé dans sa foi. A-t-elle dit le mot? C'est chose incertaine, et j'affirme qu'elle l'a pensé. Cependant, les juges, à un moment décontenancés, s'étaient remis et raffermis. L'évêque de Beauvais, s'essuyant les yeux, se mit à lire la condamnation. Il remémora à la coupable tous ses crimes, schismes, idolâtrie, invocation de démons, comment elle avait été admise à pénitence et comment, séduite par le prince du mensonge, elle était retombée ô douleur, comme le chien qui retourne à son vomissement. Donc, nous prononçons que vous êtes un membre pourri et comme tel, retranché de l'Église. Nous vous livrons à la puissance séculière, la priant toutefois de modérer son jugement en vous évitant la mort et la mutilation des membres. Délaissée ainsi de l'Église, elle se remit en toute confiance à Dieu. Elle demanda la croix. Un Anglais lui passa une croix de bois qu'il fit d'un bâton. Elle ne la reçut pas moins dévotement. Elle la baisa et la mit, cette rude croix, sous ses vêtements et sur sa chair. Mais elle aurait voulu la croix de l'Église pour la tenir devant ses yeux jusqu'à la mort. Le bon huissier, Massieu et frère Isambard firent tant qu'on la lui apporta de la paroisse Saint-Sauveur. Comme elle embrassait cette croix et qu'Isambard l'encourageait, les Anglais commencèrent à trouver tout cela bien long. Il devait être au moins midi. Les soldats grondaient et les capitaines disaient « Comment, prêtre, nous ferez-vous dîner ici ?» Alors, perdant patience et n'attendant pas l'ordre du bailli qui seul pouvait autoriser pour l'envoyer à la mort, ils firent monter deux sergents pour la tirer des mains des prêtres. Au pied du tribunal, elle fut saisie par les hommes d'armes qui la traînèrent au bourreau, lui disant « Faites l'office !» Cette furie de soldats fit horreur. Plusieurs des assistants, des juges même, s'enfuirent pour n'en pas voir davantage. Quand elle se trouva en bas, dans la place, entre ces Anglais qui portaient les mains sur elle, la nature pâlit et la chair se troubla. Elle cria de nouveau « Ô Rouen, tu seras donc ma dernière demeure !» Elle n'en dit pas plus et ne pêcha pas par ses lèvres dans ce moment même d'effroi et de trouble. Elle n'accusa ni son roi ni ses saintes, mais parvenue au haut du bûcher, voyant cette grande ville, cette foule immobile et silencieuse, elle ne put s'empêcher de dire « Ah, Rouen, Rouen, j'ai grand peur que tu n'aies à souffrir de ma mort. celle qui avait sauvé le peuple et que le peuple abandonnait, n'exprima en mourant, admirable douceur d'âme, que de la compassion pour lui. Elle fut liée sous l'écriteau infâme, mitrée d'une mitre où on lisait « Hérétique, relapse, apostate, idolâtre ». Et alors le bourreau mit le feu. Elle le vit d'en haut et poussa un cri. Puis, comme le frère qui l'exhortait ne faisait pas attention à la flamme, elle eut peur pour lui, s'oubliant elle-même, et elle le fit descendre. Ce qui prouve bien que jusque-là, elle n'avait rien rétracté expressément, c'est que ce malheureux cochon fut obligé, sans doute par la haute volonté satanique qui présidait, à venir au pied du bûcher, obligé à affronter de près la face de sa victime pour essayer d'en tirer quelques paroles. Il n'en obtint qu'une, désespérante. Elle lui dit avec douceur ce qu'elle avait déjà dit. « Évêque, je meurs par vous. Si vous m'aviez mise aux prisons d'église, ceci ne fût pas advenu. » On avait espéré, sans doute, que, se croyant abandonnée de son roi, elle l'accuserait enfin et parlerait contre lui. Elle le défendit encore. « Que j'ai bien fait, que j'ai mal fait, mon roi, n'y est pour rien. Ce n'est pas lui qui m'a conseillé. » Cependant, la flamme montait. Au moment où elle toucha, la malheureuse frémit et demanda de l'eau bénite. De l'eau. C'était apparemment le cri de la frayeur. Mais, se relevant aussitôt, elle ne nomma plus que Dieu, que ses anges et ses saintes. Elle leur rendit témoignage. Oui, mes voix étaient de Dieu. Mes voix ne m'ont pas trompé. Que toute incertitude ait cessé dans les flammes, cela nous doit faire croire qu'elle accepta la mort pour la délivrance promise, qu'elle n'entendit plus le salut au sens judaïque et matériel, comme elle avait fait jusque-là, qu'elle vit clair enfin et que, sortant des ombres, elle obtint ce qui lui manquait encore de lumière et de sainteté. Cette grande parole est attestée par le témoin obligé et juré de la mort, par le dominicain qui monta avec elle sur le bûcher, qu'elle en fit descendre, mais qui d'en bas lui parlait, l'écoutait et lui tenait la croix. Nous avons encore un autre témoin de cette mort sainte, un témoin bien grave. Cet homme, dont l'histoire doit conserver le nom, était le moine Augustin, déjà mentionné, frère Isambard de la Pierre. Dans le procès, il avait failli périr pour avoir conseillé la pucelle. Et néanmoins, quoique si bien désigné à la haine des Anglais, il voulut monter avec elle dans la charrette, lui fit venir la croix de la paroisse, l'assista parmi cette foule furieuse, et sur l'échafaud et au bûcher. 20 ans après, les deux religieux, simple moine, voué à la pauvreté et n'ayant rien à gagner ni à craindre en ce monde, dépose ce qu'on vient de lire. « Nous l'entendions, disent-ils, dans le feu, invoquer ses saintes, son archange. Elle répétait le nom du Sauveur. Enfin, laissant tomber sa tête, elle poussa un grand cri. « Jésus !» 10 000 hommes pleuraient. Quelques Anglais seuls riaient ou tâchaient de rire. Un des plus furieux, avait juré de mettre un fagot au bûcher. Elle expirait au moment où il le mit. Il se trouva mal. Ses camarades le menèrent à une taverne pour le faire boire et reprendre ses esprits. Mais il ne pouvait pas se remettre. « J'ai vu, disait-il hors de lui-même, j'ai vu de sa bouche, avec le dernier soupir, s'envoler une colombe. D'autres avaient lu dans les flammes le mot qu'elle répétait, Jésus. Le bourreau alla le soir trouver frère Isambard. Il était tout épouvanté, il se confessa, mais il ne pouvait croire que Dieu lui pardonna jamais. Un secrétaire du roi d'Angleterre disait tout haut en recevant, « Mais nous sommes perdus. Nous avons brûlé une sainte. »